que je n'ai ici pour vous n'est pas de la métaphysique. Il m'était permis d'employer un terme auquel l'actualité a fait depuis quelques années un sort. Je parlerai plutôt de lavage de cerveau. Ce que j'entends, c'est grâce à une méthode, c'est apprendre à reconnaître à la bonne place ce qui se présente dans votre expérience. Et bien entendu, l'efficacité de ce que je prétends faire ne s'éprouve qu'à l'expérience. Ceci, parfois, on a pu objecter la présence de mon enseignement de certains que j'ai en analyse. Après tout, la légitimité de cette coexistence de deux rapports avec moi, celui où l'on m'entend et celui où de moi l'on se fait entendre, ne peut se juger qu'à l'intérieur. Et pour autant que ceci que vous apprend peut effectivement faciliter à chacun j'entends aussi bien à celui qui travaille avec moi l'accès à la reconnaissance de son propre chemin. C'est un droit, bien sûr. Il y a quelque chose limite. Le contrôle externe s'arrête. Mais assurément, ce n'est pas un mauvais signe. Si l'on peut voir que ceux-là qui participent de ces deux positions y apprendront au moins à mieux lire. Lavage de cerveau, je dis, c'est bien pour moi m'offrir à ce contrôle que je reconnaisse dans de ce que j'analyse, autre chose que ce qu'il y a dans les livres. Inversement pour eux, ce qu'ils passent dans les livres, reconnaître au passage ce qu'il y a effectivement dans les livres. Et à cet endroit, je ne suis que l'applaudir, par exemple, d'un petit signe comme celui-ci, récent, qui m'a été donné de la bouche de quelqu'un, justement, que j'ai en analyse, ce passage ne lui échappe pas la portée d'un trait comme celui-ci, un peu de passage accroché dans un livre de la traduction 1, est venu récemment, combien tard, une œuvre de Ferenczi en français, à savoir ce livre dans le titre original est Alzheimer clinical theory, recherche. C'est exactement une théorie de la génitalité, et non pas simplement des origines de la vie sexuelle, comme elle a ici noyé. Livre assurément qui n'est pas sans inquiété, parce que ce côté que j'ai déjà que ce qui passe à entendre de longtemps pointé comme pouvant être l'occasion participer du délire, mais qui en portant avec lui cette énorme expérience, mais tout de même après des coups, déposer plus d'un trait pour nous précieux. Et celui-ci, dont je suis sûr que l'auteur lui-même ne lui donne pas tout l'accent qu'il veut, justement, dans sa dessin, dans sa recherche d'arriver à une notion trop harmonisante, trop totalisante de ce qui fait son objet, savoir la vitesse de la réalisation génitale. Au passage, le verset 1, qui s'exprime ainsi, le développement de la sexualité génitale, dont nous venons d'utiliser que l'homme, c'est en effet ce qu'il vient de faire, l'homme même, le mâle, le schématisme de l'élégance ligne, subit chez la femme, ce qu'on a traduit par une interruption lutolatoge, traduction tout à fait impropre puisqu'il s'agit en allemand d'une maltimliche infernitelte unterbrechen. Une interruption, maltimliche, plus souvent que le temps médian, qu'elle ne fait donc pas partie de ce procès que Ferenczi qualifie d'amphimixie, qui n'est en fin de compte qu'une des formes naturalisées de ce que nous appelons des antithèses synthèses, de ce que nous appelons progrès dialectique, qui sans doute n'est pas le terme qui va le prix de Ferenczi est valorisé, mais de ce qui anime effectivement toute sa construction. C'est intermittente, c'est-à-dire latérale par rapport à ce procès. Et n'oublions pas qu'il s'agit de trouver la synthèse de l'harmonie génitale, donc improprement traduit ici, l'utose de la synthèse, c'est-à-dire en l'impasse de ces enfants. En dehors du progrès de la médiation, cette interruption est caractérisée, et cela est accentué, ce que nous dit Freud, par le déplacement de l'hérogénéité du clitoris, entre parenthèses, pénis-pénine, à la cavité vaginale. L'expérience analytique nous incline cependant à supposer que chez la femme, non seulement le vagin, mais aussi d'autres parties du corps peuvent se génitaliser comme l'hystérie. En témoigne également, en particulier, le mamelon et la région qui l'entoure. comme vous le savez, bien d'autres zones encore dans l'hystérique. D'ailleurs, aussi bien la traduction ici est de suivre effectivement le précieux qui ici nous est apporté comme matériel, la traduction est floue, en quelque sorte baveuse. Il y a simplement, non pas en témoin également, mais nach, art et artiste. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a appris tout ça, ou ailleurs, à entendre? Si ce n'est que l'entrée en fonction du vagin, comme ça, dans la relation vitale, est un mécanisme strictement équivalent à tout autre mécanisme hystérique. Et ici, pourquoi nous en étonnons? Pourquoi nous en étonnons à partir du moment où, par notre schéma, de la place, du lieu vide dans la fonction du désir, vous avez tout prêt à reconnaître quelque chose le moins qu'on puisse dire. C'est pour vous, il faudra au moins se situer ce paradoxe, qui se définit ainsi, c'est que le lieu, la maison, que la jouissance se trouve normalement, puisque naturellement placée justement en un organe que vous savez de la façon la plus certaine, par l'expérience comme par l'investigation anatomo-physiologique, comme insensible au sens qu'il ne saurait même s'éveiller à la sensibilité pour la raison qu'il est énervé. Que le lieu dernier de la jouissance, génitale, c'est un endroit, c'est après tout, ce n'est pas un mystère. Ça peut déverser des déluges de brûlants. À une température telle qu'elle ne saurait être supportée par aucune autre muqueuse, sans provoquer des réactions sensorielles actuelles, immédiates. Qu'est-ce à dire? C'est clair. Il y a tout lieu pour nous de repérer de telles corrélations avant d'entrer dans le mythe diachronique d'une prétendue maturation qui serait, sans doute nécessaire, d'arrivée, d'achèvement, d'accomplissement de la fonction sexuelle dans la fonction génitale, autre chose qu'un procès de maturation, qu'un lieu de convergence, de synthèse de tout ce qui a pu se présenter jusque-là, dépendant par cœur. Et ça, reconnaître non seulement la nécessité de cette place vide en un plan fonctionnel du début, mais de voir que même, c'est là que la nature elle-même, que la physiologie, va trouver son point fonctionnel le plus favorable. Nous nous trouvons ainsi dans une position plus claire, à la fois délivrée de ce poids de paradoxe qui va nous faire imaginer tant de constructions mythiques autour de la prétendue jouissance vaginale, non pas bien sûr que quelque chose ne soit pas indicable au-delà, mais que si vous vous en souvenez bien, qui ont assisté à notre congrès d'Amsterdam, ce dont ils peuvent se souvenir, qu'à l'entrée de ce congrès, j'ai indiqué, faute d'appareil, faute de registre structurel, de vous donner les articulations, n'a même pas pu, au cours d'un congrès où beaucoup de choses méritoires se sont dites, être effectivement articulées, repérées comme telles. Et pourtant, combien précieux pour nous. Et de le savoir. Puisqu'aussi bien, tous les paradoxes concernant la place à donner à l'hystérie. Ce qu'on pourrait appeler l'échelle des névroses. Cette ambiguïté notamment, qui fait que, du fait de ces analogies évidentes, et bien là, que vous prêtez la pièce maîtresse, la pièce majeure, avec le mécanisme hystérique. Nous sommes appelés à la mettre dans une échelle diachronique comme la névrose la plus avancée, parce que la plus proche de l'achèvement génital. Il nous faut, dans cette conception diachronique, mettre au terme de la maturation infantile. Et donc, inversement, la clinique nous montre au contraire. Il nous faut bien, dans l'échelle névrotique, la considérer au contraire comme la plus primaire, celle sur laquelle, nommément, par exemple, les constructions de la névrose obsessionnelle s'édifient. Les relations de l'hystérie, pour tout dire, avec la psychose elle-même, avec la schizophrénie, sont évidentes. Je ne pas osciller éternellement selon les besoins et les observations que nous apportons et le point de vue que nous avons à aborder sur la de la mettre soit ainsi à la fin, soit au début. Les prétendues phases évolutives, c'est avant tout et d'abord de la rapporter à son présent, à savoir la structure synchrone. C'est nouveau dans la structure constituante du désir comme tel, ce qui fait, je vous désigne cette place, la place du bloc, la place du vide, comme jouant toujours une fonction essentielle. Et que cette fonction soit mise en évidence de la façon majeure dans la structure achevée, terminale de la relation génitale, c'est à la fois la confirmation du bien fondé de notre méthode, c'est aussi l'amorce d'une vision plus claire, déployée de quoi nous avons à nous repérer concernant le phénomène proprement du génital. Sans doute y a-t-il obstacle, objection à ce que nous le voyons directement, puisqu'il nous faut passer le régulateur par une voie de détour. Cette voie de détour, c'est l'angoisse. Nous disons ça que nous y sommes cette année. Le point où nous sommes, ce moment, où s'achève avec l'année une première phase de notre discours, consiste donc à bien vous dire qu'il y a une structure de l'angoisse. Et l'important, le vif, de la façon dont, dans ces premiers entretiens, je l'ai annoncé, amené, abordé pour vous, elle est inversée. Dans cette image, je veux dire, dans ce que la porte d'arrêt vive, qui est à prendre dans tout son caractère spécifié, je dirais même jusqu'à un certain point, qu'elle ne montre pas encore assez sous cette forme tachygraphique où le boule répète au tableau depuis le début de mon discours. Il faudrait insister sur ceci, que ce trait c'est quelque chose que vous voyez par la tranche et qui est un miroir ne s'étend pas à l'infini, un miroir à des limites. Ce qu'il vous rappelle, c'est ce qui vous est rapporté à l'article de ce schéma est extrait. Ces limites du miroir, j'en fais état. On peut voir quelque chose dans ce miroir à partir d'un point situé, si l'on peut dire, quelque part dans l'espace du miroir, d'où il n'est pas pour le sujet imperceptible. Autrement dit, je ne me vois pas forcément moi-même, mon œil, dans le miroir, même si le miroir m'aide à apercevoir quelque chose que je ne verrais pas autrement. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose à avancer concernant la structure de l'angoisse, c'est quelque chose que vous oubliez. Tout vous. Dans les observations où elle se révèle. Fasciné par le contenu du miroir, vous oubliez ses limites et que l'angoisse est encadrée ceux qui ont entendu mon intervention aux journées provinciales concernant le fantasme. Intervention, il y a près de mois et une semaine, j'attends toujours qu'on me remette le fait. Peuvent se rappeler de quoi je me suis servi comme métaphore d'un tableau qui vient se placer dans l'encadrement d'une fenêtre. Technique absurde, sans doute. Il s'agit de mieux voir ce qui est sur le tableau. Mais comme je l'ai aussi expliqué, c'est de cela justement qu'il s'agit. C'est, quel que soit le charme de ce qui est peint sur la toile, de ne pas voir ce qui se voit par la fenêtre. Ce que le rêve inaugural dans l'histoire de l'analyse du monde. Dans ce rêve de l'homme au loup, dans le privilège, et que on y arrive, incidemment, d'une façon non intime, mais l'apparition dans le rêve d'une forme pure, schématique du fantasme. C'est parce que le rêve à répétition de l'homélie est le fantasme pur, dévoilé dans sa structure qu'il prend toute son importance, et que Freud le choisit pour faire dans cette observation qu'il a pour nous ce caractère inépuisé, inépuisable, c'est parce qu'il s'agit essentiellement et de bout en bout du rapport du fantasme réel. C'est ce que nous voyons dans ce rêve, la plante soudaine et les éternes totalités d'une fenêtre. Le fantasme se voit au-delà d'une vitre, par une fenêtre qui s'ouvre, le fantasme est encadré, et ce que vous voyez au-delà, vous y reconnaîtrez, si vous, bien sûr, savez ce qui va apercevoir, vous y reconnaîtrez. Les formes les plus diverses, la structure qui est celle de ce que vous voyez ici dans le miroir de l'enseignement. Il y a toujours les deux parts d'un support plus ou moins développé et de quelque chose qui est supporté. Il y a les loups sur les branches de l'arbre. Il y a sur tel dessin de schizophrène de métallurgie. N'importe quel recueil pour le ramasser, si je puis dire à la peine. Et aussi, à l'occasion qu'elle cadre avec au bout, par exemple, pour prendre mon premier exemple dans le rapport de Bobo a fait le dernier congrès d'Anvers sur le phénomène de l'expression. Avec au bout de ses branches, quoi ? C'est qui ? Pour un schizophrène remplit le rôle de l'élu. Vu que ce cas borderline est le mélu, ici définifiant. C'est au-delà des branches de l'arbre que la schizophrène en question écrit la formule de son secret. Je sono sempre vista. à savoir ce qu'elle n'a jamais pu dire jusque-là. Je suis toujours vous, encore ici, faut-il que je m'arrête. J'espère apercevoir qu'en italien comme en français, je passe à l'état transit, mais pas seulement à partir du français. C'est aussi la vie avec ses deux sens, subjectif et objectif, la fonction de la vie et le fait d'être une vue, comme on dit, la vue du paysage, celle qui est prise là comme objet sur une carte postale. Je reviendrai bien sûr sur tout cela. Que je veux seulement aujourd'hui ici accentuer, c'est que l'horrible, le louche, l'inquiétant, tout ce par quoi nous traduisons comme nous pouvons en français, ce magistral unheimlich, se présente par des Lucas. Que c'est encadré que se situe pour nous le champ de l'angoisse. Qu'ainsi, vous retrouvez ce par quoi pour vous j'ai introduit la discussion, à savoir le rapport de la scène au monde. Soudain, tout d'un coup, toujours ce terme, vous le trouverez au moment de l'entrée du phénomène de l'unheimlich, la scène se propose dans sa dimension propre. Au-delà, sans doute, nous savons que ce qui doit s'y révéler. C'est ce qui, dans le monde, ne peut se dire. Et ce que nous attendons toujours, au lever du réseau, c'est ce court moment qui éteint de l'angoisse. Mais qui ne manque jamais à la dimension par où nous faisons plus que de venir installer dans un fauteuil plus ou moins chèrement payé nos derrières, qui est le moment. C'est trois coups, c'est le moment du rideau qui s'ouvre. Et ça, ce point introductif, vu que l'idée de l'angoisse, rien ne saurait même prendre sa valeur de ce qui va se déterminer comme tragique ou comme comique. Ce qui ne peut pas se dire. Là encore, toutes les langues ne vous donnent pas les mêmes ressources. Ce n'est pas de comique qu'il s'agit. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent se dire. Matériellement parlant, c'est d'un pouvoir dur comme dit. Je traduis mal le permis de parler. Dimension plus originelle. C'est même parce que man darf nicht. Parce que ça ne se peut pas que man kann. On va tout de même pouvoir. C'est la vie. Le forçage. La dimension de détente qui constitue la proprement parler. L'action dramatique. Nous serions trop attardés aux nuances de cet encadrement de l'angoisse. Allez-vous dire que je la sollicite dans le sens de la ramener à l'attente, à la préparation, à un état d'alerte, à une réponse qui est déjà de défense, qui va arriver, on va bien le recevoir. Cela, oui, c'est l'herbe à tout. C'est la constitution de l'esprit comme telle. C'est le premier recours au-delà de l'implosion. Mais l'angoisse est autre chose, si en effet, l'attente peut servir entre autres moyens pour son encadrement. Pour tout dire, nul besoin de cette attente. L'encadrement est toujours là, l'angoisse est autre chose. L'angoisse, c'est quand apparaît dans cet encadrement. Ce qui était déjà là. Beaucoup plus près, à la maison, Haïm, l'autre, allez-vous dire, en un certain sens, bien sûr, cet autre inconnu qui apparaît de façon inopinée. Tout à fait affaire avec ce qui se rencontre dans l'Unheimlich. Mais c'est trop peu que de le désigner ainsi, car comme le terme vous l'indique, alors pour le coup fort bien en français, cette haute dans son sens ordinaire, est déjà quelqu'un de bien travaillé par l'attente. Cette autre, c'est déjà ce qui était passé dans l'hostile, par quoi j'ai commencé ce discours de l'attente. Cet autre, au sens ordinaire, ça n'est pas le Heimlich. Ça n'est pas l'habitant de la maison. C'est de l'hostile amadoué, apaisé, admis. Ce qui est de l'Heim, ce qui est du Geheimnis, n'est jamais passé par ce tout. En fin de compte, n'est jamais passé par ces réseaux, par ce tamis de la reconnaissance, les respects unheimlich,
Moins inhabitable qu'inhabitant.
Moins inhabituel qu'inhabité. De l'angoisse, et c'est pourquoi il est chaud de dire que l'angoisse est sans objet. L'angoisse a une autre sorte d'objet. C'est toute appréhension préparée, structurée. Structurée par quoi? Par la grille. De la coupure, du sillon, du trahinaire, du cessation. Toujours en opérant, il a dû fermer leurs lèvres. Je dis la lèvre, les lèvres de cette coupure deviennent lettre close sur le sujet. Pour, comme je voulais expliquer la dernière fois, le renvoyer sous pli fermé à d'autres traces. Les signifiants sont du monde, un réseau de traces. Dans lequel le passage d'un cycle à l'autre était là possible. Ce qui veut dire quoi? Ce que je vous ai dit la dernière fois. Le signifiant engendre un monde. Monde du sujet qui parle, dont la caractéristique essentielle est qu'il est possible d'y tromper. L'angoisse, c'est cette même dans laquelle la présence du signifiant, son fonctionnement, son entrée, son sillon dans le réel est impensable. C'est cette coupure qui s'ouvre. Qui laisse apparaître, c'est maintenant que vous entendrez mieux quand je vous dirai l'inattendu. La visite, la nouvelle, ce que si bien exprime le terme de pressentiment, qui n'est pas simplement à entendre, mais sentiment de quelque chose, mais aussi le prêt du sentiment. Ce qui est avant la naissance d'un sentiment. Et les aiguillages sont possibles à partir de quelque chose qui est l'angoisse. Ce qui est en fin de compte. Et qui est la véritable substance de la foi, le ce qui ne trompe pas. Le hors de doute. Par
ne vous laissez pas prendre aux apparences. Ce n'est pas parce que le lien peut vous paraître cliniquement sensible, bien sûr, que l'angoisse au doute, à l'hésitation, au jeu dit ambivalent de l'obsessionnel, que c'est la même chose. L'angoisse n'est pas le doute, l'angoisse c'est la cause. Que j'aurai ici à Poitiers, ceci se maintient après tant des cas de des siècles d'appréhension critique de la fonction de la causalité, c'est bien parce qu'elle est ailleurs que là où on la réfute. Que s'il y a une dimension où nous devons chercher la vraie fonction, le vrai point, le sens du maintien de la fonction de cause, dans cette direction de l'ouverture de l'angoisse. Le docteur vous dit, je n'ai fait que pour combattre l'angoisse. Et justement, tout ce que le doute dépense de force, c'est contre des lois, c'est dans la mesure, ce qu'il s'agit d'éviter. C'est ce qui, dans l'angoisse, se tient d'affreuses certitudes. Je pense que là, de m'arrêter et de me dire, de me rappeler ce que j'ai plus d'une fois avancé sous des formes aphoristiques. Que toute activité humaine s'épanouit dans la certitude, ou encore qu'elle engendre la certitude. C'est d'une façon générale que la référence de la certitude, c'est essentiellement l'action. Et c'est justement ce qui me permet d'introduire maintenant le rapport essentiel de l'angoisse à l'action comme telle. C'est justement peut-être de l'angoisse que l'action emprunte sa certitude. Agir, c'est arracher à l'angoisse sa certitude. Agir, c'est opérer un transfert d'angoisse. L'opposition qui était déjà impliqué et même exprimé dans ma première introduction de ces termes, et dont je vais maintenant souligner l'opposition, à savoir ce qu'il y a dans trop dans l'embarras, à ce qu'il y a dans mon
dans ce que je disais, c'est un commentaire étymologique, dont vous vous souvenez, j'espère, que c'était moi qui étais là, souligné du sens de l'émoi. L'émoi, vous ai-je dit, c'est essentiellement l'évocation du pouvoir qui fait défaut, est-ce meilleur. L'expérience de ce qui vous manque par le désir. Dans la référence à ces deux termes, dont la liaison est essentielle à notre sujet. Car cette liaison en souligne l'ambiguïté. C'est entre eux ce à quoi nous avons affaire. Alors, il ne vous manque pas. Il vient à vous manquer, pourquoi dire qu'ailleurs il vous embarrasse. Prenons garde ici de ne pas céder aux illusions les plus flatteuses. En nous attaquant ici nous-mêmes à l'angoisse, que voulons-nous? Que veulent tous ceux qui en ont parlé scientifiquement? Parbleu. C'est que j'ai eu le besoin qui était pour moi exigé que je vous pose au départ comme nécessaire à la constitution d'un monde. C'est ici que cela révèle n'être pas vain et que vous en avez le contrôle. Ça se voit mieux parce qu'il s'agit justement de l'envoi, c'est ce qui se voit, c'est quoi? C'est que vouloir en parler scientifiquement, c'est montrer qu'elle est quoi? Il manque du prix. On ne s'aperçoit pas que tout ce sur quoi s'étend la conquête de notre discours revient toujours à montrer que c'est une immense du prix. Maîtriser par la pensée le phénomène, c'est toujours montrer comment on peut le refaire d'une façon trompeuse. C'est pouvoir le reproduire, c'est-à-dire pouvoir en faire insignifiant. Insignifiant de quoi? Sujet, en le reproduisant, de falsifier le livre des comptes. Ce qui n'est pas fait pour nous étonner, il est vrai, comme je vous l'enseigne, signifiant, c'est la trace du sujet dans le cours du monde.
Seulement, si nous croyons pouvoir continuer ce jeu avec l'angoisse, eh bien, nous sommes sûrs de manquer la peur. Puisque, justement, j'ai posé tout d'abord que l'angoisse, c'est ce qui regarde, ce qui échappe à ce jeu. Donc, c'est cela dont il faut nous garder au moment de saisir ce que veut dire ce rapport. Et signifiant entre autres de manque et signifiant en moins. Je l'illustre, si vous ne l'avez déjà fait, ce rapport. Si je n'avais pas l'analyse, bien sûr, je ne pourrais pas en parler.
Mais l'analyse l'a rencontré au premier tournant, le fallu, par exemple. Ce petit Hans, logicien, tant qu'Aristote, pose l'équation. Tous les êtres animés ont un phallus. Je suppose, bien sûr, que je m'adresse à des gens qui ont suivi mon commentaire de l'analyse du petit Hans. Ils se souviendront aussi à ce propos, je pense, que j'ai pris soin d'accentuer l'année dernière concernant la proposition dite affirmative universelle. Et le sens de ce que je voulais par là vous produire, savoir que l'affirmation universel, universel positive, n'a de sens que de définition du réel à partir de l'impossible. C'est impossible qu'un être animé n'ait pas un phallus. Comme vous le voyez, pose la logique dans cette option essentiellement précaire de condamner le réel à trébucher éternellement dans l'impossible. Et nous n'avons pas d'autre moyen de l'appréhender. Nous avançons de trébuchement en trébuchement, exemple. Il y a des êtres vivants, maman, par exemple, n'ont pas de salut. Alors, c'est qu'il n'y a pas d'être vivant. Angoisse. Et le pas suivant est à faire.
Il est certain que le plus commode, c'est de dire que même ceux qui n'en ont pas en eux, c'est bien pourquoi. C'est celle à laquelle nous nous tenons dans l'ensemble. Les êtres vivants qui n'ont pas de salut sont heureux envers et contre tout. C'est parce qu'ils auront un salut que nous autres. Psychologues appelleront irréel, c'est pas simplement un salut signifiant, ils seront vivants. Très doucement, progresse, je n'ose pas dire la connaissance, mais assurément la compréhension. Et je ne peux résister au plaisir passage de vous faire part d'une découverte que le hasard, une trouvaille que j'ai faite pour vous pas plus tard, quelques décembre, dans un dictionnaire de slang. Mon Dieu, j'aurais mis du temps à y venir, mais la langue anglaise est vraiment belle. Qui donc ici sait que, déjà depuis le 15e siècle, l'âme anglaise a trouvé cette merveille de remplacer à l'occasion I understand you perfectly, par exemple, par I understand you. C'est-à-dire, puisque la phonétisation vous a permis peut-être d'éviter la nuance, que je viens de vous expliquer. Dans 30 ans, ça veut dire une Bertagne. Je vous comprends. Mais quelque chose d'intraduisible en français, puisque tout le prix de ce mot de slang est dans le fameux qui veut justement dire ce que je suis en train de vous expliquer. Le très méchant. Je vous comprends, ça nous rappelle que cas à cas, c'est toujours s'avancer dans le malentendu. Aussi bien, si les forces de l'expérience se composaient, comme on nous l'enseigne en psychologie classique du réel et de l'irréel, et pourquoi pas, comment ne pas rappeler à ce propos que ça nous indique d'avoir à projeter quant à ce qu'est proprement la conquête freudienne. Et que c'est nommément ceci, que ceci l'homme est tourmenté par l'irréel dans le réel. Il serait tout à fait vain d'espérer s'en débarrasser pour la raison. Et ce qui, dans la conquête freudienne, est bien justement l'inquiétant, c'est que dans l'irréel. C'est le réel qui le tourmente. Son souci, nous dit le philosophe, Sorgue. Bien sûr. Mais nous voilà bien avancés. Est-ce là un terme dernier qu'avant de s'agiter, de parler, de se mettre de l'eau, le souci est présupposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne voyons-nous pas que nous sommes déjà là, au niveau d'un art du souci? L'homme est évidemment un grand producteur de quelque chose qui le concernant s'appelle le souci. Et alors, j'aime mieux l'apprendre d'un livre sacré, qui est en même temps le livre le plus profanateur qui soit, qui s'appelle l'Ecclésiaste. Je pense que je m'y référerai par la vie. Cet Ecclésiaste, c'est la traduction, vous le savez, grecque, par les septantes du terme corélet, terme apact, unique. Employé dans cette occasion qui vient du caral assemblée. Corélet en étant une forme à la fois abstraite et féminine, étant à proprement parler la vertu assemblante, la ramassante. L'Ecclésia, si l'on veut, plutôt que l'Ecclésia. Et qu'est-ce qu'il nous dit, nous apprend ce livre que j'ai appelé livre sacré le plus profane? Le philosophe, il dit, ne manque pas de trébucher. À y lire, je ne sais quel écho, c'est lui ça. Épicure, parlons-en, à propos de l'Ecclésiaste. Je sais bien qu'Épicure, depuis longtemps, a cessé de nous calmer. C'était, vous le savez, sans dette. Et dire que l'Ecclésiaste a eu même un seul moment une chance de nous produire le même effet, c'est vraiment pour ne l'avoir jamais même trouvé. Dieu me demande de jouir. Textuel. C'est tout de même la parole de Dieu. Et même si ce n'est pas la parole de Dieu pour vous, je pense que vous avez déjà remarqué la différence totale qu'il y a du Dieu des Juifs au Dieu de Platon, même si l'histoire chrétienne a cru devoir, à propos du Dieu des Juifs, trouver auprès du Dieu de Platon sa petite évasion psychotique, il est tout de même temps de se souvenir de la différence différence qu'il y a entre le Dieu moteur universel, le Dieu souverain bien, conception délirante de Platon, et le Dieu des Juifs, c'est-à-dire un Dieu qui lui demande quelque chose. Et qui, dans l'Ecclésiaste, vous ordonne. Juif. Ça, c'est vraiment le peuple. Car jouir aux ordres, c'est quand même quelque chose dont chacun sent que s'il y a une source, une origine de l'angoisse, elle doit tout de même se trouver quelque part par là. Un juif peut répondre qu'une chose, c'est J apostrophe O, U, prenne Y, juif, bien sûr. Mais naturellement, je ne jouis pas si facilement pour eux. Quel est le relief, l'originalité, la dimension, l'ordre de présence dans lequel s'active pour nous le Dieu qui parle. C'est lui qui nous dit expressément qu'il est ce qu'il est. Pour m'annoncer, pendant que l'éla à ma portée, dans le champ de ses demandes, et parce que vous allez voir que c'est très proche de notre sujet, j'introduirai ce moment, peut-être vous pensez bien que ce n'est pas d'hier que j'ai à vous faire remarquer, c'est à savoir que parmi ces demandes du Dieu à son peuple élu, privilégié, il y en a de tout à fait précis. Et donc il semble que ce Dieu n'est pas eu besoin d'avoir la présence de l'enseignement pour préciser bien les termes. Il y en a une qui s'appelle la circoncision. Il vous ordonne le jouir et en plus il entre dans le mode d'emploi. Il précise la demande. Il dégage l'objet. C'est en quoi je pense à vous comme à moi n'a pas pu ne pas apparaître depuis longtemps l'extraordinaire embrouillamique, cafouillage, évocation analogique qu'il y a dans la prétendue référence de la circoncision à la castration. Bien sûr que ça a un rapport, puisque ça a un rapport avec l'objet de l'angoisse. Mais dire que la circoncision, que ce soit la cause, soit de quelque façon que ce soit le représentant, l'analogue, c'est ce que nous appelons la castration, ils sont complexes. C'est là faire une grossière erreur. C'est ne pas sortir du symptôme, justement. À savoir, c'est qui ? C'est tel sujet circoncis, c'est établi. C'est confusion concernant sa marque avec ce dont il s'agit éventuellement dans sa névrose relativement au complexe de castration. Car en fait, rien de moins castrateur que la circoncision. Que ce soit net, quand c'est bien fait, assurément, nous ne pouvons que nier que le résultat soit plutôt élégant. Je vous assure qu'à côté de tous ces fesses, sans faire mal, de grandes graisses, que les antiquaires, sous prétexte chianalyse, m'apportent par tombeau. Et à domicile, pour que ma secrétaire leur rentre et part à la coule chargée. À côté, donc je dois dire que par une accentuation, je vais qualifier, le fumeur est toujours accentué d'une façon particulièrement dégueulasse. Il y a tout de même, dans la pratique de la circoncision, quelque chose de déjà salubre du point de vue esthétique. Et d'ailleurs, même ceux qui continuent là-dessus à répéter les confusions qui traînent dans les écrits analytiques, tout de même, la plupart ont été depuis longtemps qu'il y a quelque chose, même des fonctionnels, qui est d'aussi essentiel que de réussir, et bien sûr, pas d'une façon uniquement l'ambiguïté qu'on appelle. Je suis la plaie et le couteau de quelque part au-delà. Eh bien, pourquoi considérer comme la situation normale d'être à la fois le dard et le fouet? Il y a évidemment dans cette attention rituelle de la circoncision quelque chose qui ne peut assurément qu'engendrer quelque chose de salubre quant à la division des rôles. Je remarque comme vous le sentez bien, ne sont pas latérales. Elles ouvrent justement la question qui au-delà de ce qui déjà à partir de cette explication ne peut plus vous apparaître comme une sorte de caprice rituelle. mais quelque chose qui est conforme. Si dans la demande, je vous apprends à considérer comme ce terminant de l'objet, comme la fonction de la coupure, c'est le cas de la coupure, de cette zone d'unité, ici, le Dieu demande en offrande, et très précisément pour dégager l'objet après l'avoir cerné, que si, après cela, les sources comme l'expérience de ce qui se reconnaissent par ce signe traditionnel que si leur expérience ne voit pas pour autant s'abaisser, peut-être loin de là, leur relation à l'angoisse, c'est à partir de là que la question commence. L'un de ceux qui s'appuie évoqué, et ce n'est vraiment par mon assistance ne désigner personne, m'a appelé un jour, dans un billet privé, le dernier des kabbalistes chrétiens. Rassuré. Si quelque investigation, jour à proprement parler, sur le calcul des signifiants, peut-être quelque chose où à l'occasion je m'attarde, ma gématrie ne va pas à se perdre dans son corps. Il ne me fera jamais prendre, si j'ose dire, ma bêtise, pour la lanterne de la connaissance. Et bien plutôt, si cette lanterne s'avère être une lanterne sourde, il reconnaîtra l'occasion ma bêtise. Mais, plus directement que Freud, parce que venant d'après lui, j'interroge son Dieu. Que voit ? Que nous veux-tu ? Autrement dit, quel est le rapport du désir à la loi ? Question toujours évitée par la tradition philosophique, et auxquelles Freud a répondu, et vous en vivez, même si, comme tout le monde, vous n'en êtes pas encore aperçu, réponse, c'est la même chose. Ce que vous savez, ce à quoi vous conduit ce que je vous enseigne, et qui est déjà là dans le texte, masqué sous le mythe de l'Égypte, c'est que le désir paraît se poser dans un rapport d'antithèse, ne sont qu'une seule et même barrière pour nous barrer l'accès à la chose. Mollesse, volesse, désirant, je m'engage dans la route de la joie. C'est pourquoi un rapport assez opaque, insaisissable désir du père, l'origine de la loi. Mais ce à quoi cette découverte et toute l'enquête analytique nous ramène, c'est de ne pas perdre de vue ce qu'il y a de frais derrière cela. On ne normatise ou pas mes objets tant que je désire je ne sais rien de ce que je désire. Et puis, de temps en temps, un objet apparaît parmi tous les autres dont je ne sais vraiment pas pourquoi il est là. D'un côté, il y a celui dont j'ai appris qu'il couvre mon angoisse. Mais je n'oublie pas, il a fallu qu'on me l'explique, l'objet de la folie. Jusque-là, je ne savais ce que j'avais en tête, sauf à dire que j'en avais une seule. De l'autre côté, il y a celui dont je ne peux vraiment justifier pourquoi c'est celui-là que je désire. Et moi, qui ne déteste pas les filles, pourquoi j'aime encore mieux cette petite chose. D'un côté, il y a le loup, de l'autre, la bergère. C'est ici que je vous laisserai à la fin de ce premier entretien sur l'angoisse. Il y a autre chose à entendre que l'ordre angoissant de Dieu. Il y a la chasse de Diane, dont en un temps que j'ai choisi celui du centenaire de Freud, je vous ai dit qu'il était la voix de la quête freudienne, il y a à quoi je vous donne rendez-vous pour le trimestre qui vient concernant l'angoisse, il y a l'allalie du loup.